Chapitre 21. La légende des camillons. Lecteur, vous n'ignorez pas qu'on donne le nom de camillon à une variété de pots larges et profonds où se délait le badigeon des murs. C'est justement ce genre de camillon qui nous intéresse ici. Et l'on verra que, faute des camillons qui vont faire leur apparition dans ce récit, l'histoire de France eût peut-être été bouleversée. Capestan sortit de l'hôtel d'Angoulême, la tête en feu, la gorge pleine de sanglots et de jurons, avec le besoin de crier, de courir, de s'en prendre à tout l'univers, de la catastrophe qui s'abattait sur lui. Cette catastrophe, c'était la ruine de son amour. Malheur à qui lui fut tombé sous la main à ce moment-là. Dans son désastre, pourtant, il gardait une sorte de sang-froid s'il avait le cœur douloureusement plein de Gisèle. Ce qui bourdonnait dans sa tête, c'étaient les terribles paroles que lui avait arrachées ce cri d'épouvante, par quoi sa présence dans les souterrains avait été révélée au conspirateur. « Ce soir, cette nuit, messieurs, le roi va être empoisonné. Avant tout, courir au Louvre, y pénétrer coûte que coûte, se ruer jusqu'à Louis, le réveiller, lui crier « Sire, ne buvez rien cette nuit !»« Oh, arriver à temps !»« Oh, peut-être, sans doute même, il était trop tard !» N'importe, essayons, courons, volons au Louvre, faisons cet effort suprême. Tentons d'arracher ce pauvre petit roitelet à la mort hideuse qui le guette. Cogolin, où est Cogolin? Où est-il ce coquin? Ah, misérable traître, il a été s'enivrer dans quelque taverne. Les chevaux, mon Fanlair qui me porterait au Louvre en 2 minutes. Qu'a-t-il fait de Fanlair? Capestan courait à droite, courait à gauche, multipliait les jurons, les blasphèmes, les sifflets d'appel. Pas de Cogolin, disparu Cogolin. Capestan, tout à coup, poussa un dernier appel et s'élança comme un furieux. Au loin, à Saint-Germain-l'Auxerrois, 2 heures tintèrent dans le grand silence de Paris endormi, et les voix, graves ou aigres de 100 clochers, se répondirent, se répétèrent qu'il était 2 heures. Capestan, rué en tempête, traversa le pont neuf, qui était alors tout neuf, et que, par un étrange entêtement, les Parisiens continuent encore à appeler neuf, alors qu'il est maintenant l'un des plus vieux patriarches de nos ponts. Puis, le chevalier tourna à gauche, sur le quai de l'école. De la même course forcenée, il contourna le vieux château royal, parvint, haletant, sur la place du Louvre et se présenta à l'entrée d'une porte que gardaient 2 sentinelles, lesquelles, à l'aspect de cet homme hors d'haleine et tout bouleversé, commencèrent par croiser leurs piques. « Messieurs, haleta Capestan, il arrive un malheur épouvantable si je ne parle pas sur le champ à monsieur de Vitry, capitaine des gardes. »« Officier, une visite !» cria d'une voix impassible l'un des 2 soldats. « Ah, voilà qui va bien !» fit le chevalier en s'épongeant. Un falot apparut de l'autre côté du fossé. Une voix cria « Avancez !» Capestan, d'un bond, franchit le pont, pénétra sous une voûte. « Entrez là !» dit la même voix, et l'homme désigna une porte qui s'ouvrait sur le flanc droit de la voûte, tandis qu'au fond, le grand portail massif demeurait solidement fermé. « Jamais je n'arriverai !» rugit en lui-même Capestan. Il entra pourtant. Il se vit alors dans un vaste corps de garde. Et tout de suite, il remarqua au fond une autre porte vitrée qui s'ouvrait, elle, sur la cour intérieure du château. Il y avait là une 12aine de Suisses assis sur des escabeaux. L'officier subalterne qui commandait ce poste, sorte de sergent, fort bel homme comme tous ceux qui l'entouraient, demanda, avec un fort accent de la Suisse allemande, « Que voulez-vous? Que demandez-vous? Parlez tout de suite au capitaine des gardes. Il y va de la vie d'une illustre personne que je ne puis nommer. Hâtez-vous, mais hâtez-vous donc, allez le chercher, ou mieux, conduisez-moi à lui. Allons donc, Corbac !»« Der Teufel !» répondit le sergent pour ne pas être en reste. « Comme vous y allez, mon gentilhomme, prenez garde au camion. Et vous dites que c'est grave ?» « Voilà 1 heure que je vous le crie !» hurla Capestan. « Vous serez cassé, pendu, tiré à 4 chevaux, si Monsieur Vitry n'est pas prévenu à temps. Comme le régicide Ravaillac, entends-tu, comme un régicide !»« Der Teufel !» répéta le sergent en se grattant l'oreille. La fleur allait réveiller le capitaine des gardes de Sa Majesté. Un soldat sortit par la porte vitrée. Vous me répondez au moins, mon gentilhomme. Prenez donc garde au camion. Vous me répondez que la chose en vaut la peine. » Capestan haussa les épaules et se rapprocha de la porte vitrée. Dans la nuit, il aperçut l'ombre du soldat Lafleur qui s'éloignait d'un pas majestueux et paisible vers l'aile droite du château, c'est-à-dire l'aile qui longeait la Seine. « Trop tard !» gronda le chevalier. « Il sera trop tard. Où loge le capitaine ? Voyez-vous ces deux fenêtres éclairées sur votre droite ? C'est là, et derrière l'appartement du capitaine commencent les appartements de Sa Majesté. Vous voyez, ce ne sera pas long. Mais reculez-vous, mon gentilhomme, il est défendu d'approcher de cette porte. » Capestan se mit à reculer machinalement vers le fond du corps de garde. « Là, patience, mon gentilhomme, prenez donc garde au camion. » « Vous dites que ce ne sera pas long ?» haleta Capestan en essuyant la sueur froide qui coulait sur ses joues. « 10 minutes pour entrer chez le capitaine, 1 quart d'heure pour le réveiller et lui expliquer qu'il s'agit d'un cas de vie ou de mort. Dans une demi-heure au plus tard, le capitaine vous enverra quelqu'un pour vous interroger. »« Une demi-heure ?» bondit Capestan. « Ya ! Prenez donc garde au camion, der Teufel !» « Monsieur, rugit Capestan, il faut que je coure chez le capitaine. Faites-moi place. »« Holà, c'est un fou ou un enragé. Vous croyez donc qu'on entre au Louvre comme dans une écurie et en pleine nuit ? Holà, garde !» Capestan avait porté la main à sa rapière. Et alors, il s'était aperçu que sa rapière brisée était restée dans les souterrains de l'hôtel d'Angoulême. Et alors, il avait bondi sur le sergent, il le saisissait à la gorge, le secouait, hurlait... « Ah, misérable, tu te moques de moi. Place, place, ou je t'étrangle. »« Garde, der Teufel, quelle poigne. Foncez, su, su, piquez. Oh, les camions !» En un clin d'œil, Capestan avait été entouré par une douzaine de Suisses gigantesques, furieuses et dorées sur toutes les coutures. En un clin d'œil, 20 points se levèrent sur son crâne. En une seconde, un effroyable tumulte se déchaîna, où se croisaient, en langue allemande, les jurons, les exclamations, les insultes. « Der Teufel ! Der Teufel ! Ha ! Ha ! Mein Gott ! Mein Gott !» Soudain, il y eut sur toute la ligne une reculade effarée, une débandade de stupeur, suivie de hurlements de rage, que dominait la clameur de Capestan, ponctuée par un formidable éclat de rire. « Tiens, toi, en bleu, et toi, du vert ! Ha ! Ha ! Misérable ! « Tiens, toi, un peu de jaune, et toi, du rouge. Ah, truand, ah, peste, ah, corbac. Tenez, tenez, buvez, ivrogne !» Quoi ? Que se passait-il parmi les Suisses affolés ? Quelle panique ! Quelle terreur ! Les camions ! C'étaient les camions qui entraient en scène. Il se passait que les peintres étaient en train de badigeonner à neuf l'intérieur de la voûte et les portes et que, le soir, ils remisaient leurs camions dans le corps de garde. Il se passait que Capestan avait trébuché dans ses camions, qu'il avait baissé le nez pour voir et qu'il avait vu des flots de peinture se répandre et que, n'ayant pas d'armes pour se défendre, une idée avait traversé sa tête et qu'instantanément, il avait mis l'idée à exécution. Il se passait enfin qu'il s'était baissé avec la rapidité de l'éclair, qu'il avait de chaque main empoigné un énorme pinceau et qu'il s'en servait à tour de bras, badigeonnant, peignant en bleu, en vert, en rouge, au hasard, tamponnant ici un nez, là une joue, aveuglant celui-ci, en plissant cette bouche qui béait, aspergeant frénétiquement les costumes, les beaux, les splendides et rutilants costumes des Suisses épouvantés qui reculaient, se bousculaient, fuyaient comme une bande de rats surpris par l'inondation. Car toute la question était là, sauver les costumes, épargner les baudriers, mourir plutôt que d'admettre une tache juste au corps. Les Suisses qui eussent regardé froidement un poignard, qui n'eussent pas reculé devant une arquebuse, fuyaient avec de terribles clameurs de rage et d'épouvante. Une tache au baudrier, ce n'était plus des taches, c'était une inondation polychrome, une débauche de coloriage, un badigeonnage enragé des visages et des costumes. Le corps de garde devenait une ménagerie de papegaies, et dans cette débandade frénétique, ils virent s'élancer une ombre lancée comme par une catapulte. C'était le chevalier qui passait en brandissant ses 2 vastes pinceaux. Il passait, il atteignait la porte, il la franchissait, il s'élançait dans la cour intérieure, bondissait vers les fenêtres éclairées, poursuivi par la meute furibonde des Suisses fous de rage. « Su, su, arrête, arrête, piquez, tuez, arrête, su, su !» Aussitôt dans le Louvre, de toutes parts, une rumeur éclate, s'enfle, grandit, roule comme un tonnerre. Tous les postes sautent sur leurs armes. Les officiers de service vont, viennent, courent, se heurtent, font ranger leurs hommes en bataille. « Quoi, qu'y a-t-il? Quelle catastrophe ! Le Louvre est attaqué ! Aux armes ! Aux armes ! Tuez ! Tuez ! Arrête ! Arrête !» En bonds effrénés, Capestan avait traversé la cour, s'était engouffré sous une voûte, se ruait dans un escalier qu'il montait par rafale de sa marche tempétueuse. Dans tout le Louvre, le désordre, la clameur au paroxysme. En haut de l'escalier, une porte s'ouvre violemment. Capestan, talonné par les Suisses enragés, se rue, ses deux pinceaux au poing. « Place, place, je veux voir le capitaine Vitry !»« C'est moi !» hurle un homme effaré, stupide d'étonnement. « Meudon !» vocifère Capestan. C'est le mot de passe que lui a donné le roi pour être admis à toute heure chez lui. Vitry hésite pourtant. Tout cela a duré quelques secondes. Vitry n'a pas pris une décision encore qu'il reçoit un coup dans la figure. Vitry est vert. Pif, paf, pan. Un coup ici, un coup là, l'enragé passe, il est passé. Le voilà dans l'antichambre du roi. Une porte, là, il l'ouvre. D'une bourrade suprême, il écarte deux gardes qui essaient de l'arrêter. De deux derniers coups de pinceau furieux, il badigeonne encore deux visages et haletant, hagard, déchiré, en lambeaux, terrible et sublime, il bondit jusqu'au chevet de Louis XIII, il saisit l'amphore et la brise, il jette un coup d'œil vertigineux sur la coupe et la voit pleine. Il la vide à toute volée sur le parquet et alors il tombe à la renverse sur les tapis en souriant et il s'évanouit en exhalant ce mot. Il allait boire, il était en corbac.